Épître de Paul à Timothée. Nous avons prêché sur la première partie de ce texte dimanche dernier. Je vous propose de lire trois versets qui sont tout à la fin du premier chapitre de cette deuxième épître de Paul à Timothée. 2 Timothée, chapitre 1, versets 15 à 18. Ça va, vous êtes avec moi ? La louange, l'adoration, la prière vous a fatigué ou vous a rassasié? Écoutez la parole du Seigneur. C'est l'apôtre Paul qui écrit à son fils spirituel Timothée. Et au moment où l'apôtre Paul écrit, Timothée n'est pas à ses côtés. Il a besoin de lui et avant qu'il n'arrive, il lui partage un certain nombre de sujet qu'il a à cœur, et il s'épanche. C'est rare que l'apôtre Paul soit à ce point dans la confidence. Mais ce passage, j'estime qu'il peut être éclairant pour nous, et je dirai en quoi. Comme tu le sais, tous ceux de la province d'Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur traite avec bonté la famille d'Onésiphore, car il m'a souvent réconforté. Il n'a pas eu honte de moi qui suis en prison. Au contraire, dès son arrivée à Rome, il m'a cherché avec zèle jusqu'à ce qu'il m'ait trouvé. Que le Seigneur le fasse bénéficier de la bonté de Dieu au jour du jugement. Tu connais très bien aussi tous les services qu'il m'a rendus à Éphèse. Jusqu'ici, notre lecture. On aura peut-être d'autres lectures vers le chapitre 4, la fin de cet épître. Pouvoir compter sur le soutien d'un ami, pouvoir compter sur le soutien d'un frère, d'une sœur, d'un proche, qui n'aimerait pas. Pouvoir compter sur des compagnons de route, notamment quand l'épreuve nous visite, quand notre vie est heurtée ou cabossée. Pouvoir compter sur un ami comme un frère, c'est une source de bénédiction et de réconfort, nous sommes d'accord, n'est-ce pas? A contrario, quelle douleur! Quelle déception, quelle peine lorsque l'épreuve semble faire le vide autour de nous. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu l'une ou l'autre de ces expériences. Être secouru par un ami ou un frère fidèle, d'une part, mais aussi l'expérience de l'abandon, de l'isolement, lorsque vous avez le plus besoin de quelqu'un. L'apôtre Paul a fait cette expérience, celle de l'ambivalence de l'amitié et de la fraternité humaine. Oui, il le dit simplement, et c'est en cela que ce texte peut nous aider dans notre réflexion sur notre ambivalence humaine. C'est une réalité. Nous sommes ambivalents, nous sommes ondoyants et divers. Heidegger l'avait déjà dit en son temps. L'être humain est changeant. L'être humain peut être source de réconfort pour un ami, une sœur, un frère, un parent, un proche, ou source d'inconfort, source de souffrance, de déception. Partant de l'expérience de l'apôtre Paul dans ce passage, je ne vais pas essayer d'en faire une théologie systématique, mais collons un peu au texte et prenons quelques éclairages. J'aimerais donc réfléchir à cette problématique de l'ambivalence de la fraternité ou de l'amitié. Les deux se distinguent, mais permettez-moi de les lier, l'amitié fraternelle, dirions-nous. Cette ambivalence qui fait que nous devons chercher à comprendre les mécanismes qui orientent différemment la trajectoire de l'amitié fraternelle, tantôt positivement en permettant à la relation fraternelle d'être un lieu de soutien, de réconfort, ou encore, hélas, parfois négativement, en dévitalisant le lien, en faisant souffrance. Alors, mettons-nous à l'écoute d'abord de l'expérience de Paul. J'aurai 5 points que je vais aborder dans ce message. La situation de l'apôtre Paul, qui n'est pas notre situation forcément, ou en tout cas, il faut la distancier de la nôtre. Dans ce passage, nous allons réfléchir à ceux qui lui ont tourné le dos et comment l'apôtre Paul analyse les motifs. Ceux qui lui ont apporté réconfort. Et puis, nous allons également évoquer la question de la blessure. Parce que, voyez-vous, quand on nous a tourné le dos, on est blessé. Mais qu'en faire et comment dépasser la blessure? Et puis, enfin, nous allons conclure avec la conviction de l'apôtre Paul, non, jamais tout seul. Voilà un peu la feuille de route de ce message. Et maintenant, le temps nous est compté. L'expérience de l'apôtre Paul est caractérisée par deux états. D'abord, nous sommes autour des années 66 après Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul est arrivé à Rome, où il est incarcéré. Il a déjà été incarcéré une première fois et il bénéficiait d'une certaine liberté. Mais cette fois-ci, il a une incarcération très dure, douloureuse. Et alors que nous sommes au tournant de la deuxième moitié du premier siècle, il sent que cette ultime épreuve est l'ultime épreuve de sa vie et il ne voit pas une issue autre que sa mort. Martyr à Rome. Il est prisonnier, d'après les spécialistes, autour de l'an 66. Il faut se rappeler qu'en 64, un incendie terrible a détruit presque la moitié de Rome. Et que cet incendie a suscité, bien sûr, de vives réactions. Et c'est Néron, qui n'était pas un démocrate, qui était alors empereur de Rome. Et pour calmer la colère, la fureur de sa population, alors que les historiens semblent dire qu'il n'était pas étranger à cet incendie, il a mis l'incendie sur le dos des chrétiens. Nous ne sommes pas encore au temps des persécutions systématiques, mais nous sommes là devant un personnage despotique, cynique, qui charge les chrétiens d'un fait qu'ils n'ont pas commis et qui fait monter les crispations et le rejet. C'est dans ce contexte-là, pour comprendre un peu, que Paul va vivre une incarcération plus dure. Il est donc privé de liberté d'aller et venir. Et il n'a pas l'accès facile à ses compagnons d'œuvre, à ses amis, à ses frères. On peut imaginer cette géole romaine très inconfortable. Mais ce qui est plus pénible à l'apôtre Paul, c'est que dans ces circonstances difficiles et éprouvantes, l'apôtre Paul qu'on sait être un homme de relations et d'actions. Quand vous lisez les lettres de Paul, ce qui vous frappe, c'est son dynamisme, c'est son courage. C'était on y va, en avant. Et il n'est pas un franc-tireur, il est toujours accompagné de plein de personnes, de plein de compagnons d'œuvre. Ce n'est pas un solitaire, Paul. Et là, il fait l'épreuve d'une solitude subie. Mais ce qui l'ébranle plus profondément, c'est qu'il va faire l'expérience de l'isolement et de l'abandon. Il y a des statistiques, je fais ici un parallèle avec notre situation sociale, vous savez, des statistiques, des sujets dont on ne parle pas, de cette mort sociale de bien de personnes qui, à longueur de journée, ne voient personne, ne parlent à personne. Tous les lieux du lien sont coupés. En général, elles sont retraitées depuis longtemps. Donc n'ont plus de vie professionnelle. dans ce contexte de mobilité, les enfants sont peut-être à l'autre bout du monde, comme moi-même je suis à l'autre bout du monde par rapport à mes parents. Le voisinage peut-être n'est pas assez attentif à ce qui se vit ou ne se vit pas derrière cette porte. Et le facteur ne passe pas dans certains quartiers tous les jours. Et parfois, c'est le seul qui peut encore leur dire quelque chose de la vie autrement que par l'écran de la télévision. L'infirmier ou l'infirmière non plus ne passe pas tous les jours. C'est parfois les seuls à pouvoir se rendre compte de cette mort sociale à petit feu. Nous savons donc, même si la distance avec Paul est grande, nous savons donc pouvoir ressentir un peu ce que l'isolement subi peut provoquer en termes de découragement, en termes de déprime, en termes de dégoût de vivre. Mais l'apôtre Paul n'est pas dans une dépression et il n'est pas dans le dégoût de vivre, il est dans le désir de revoir ceux qui lui sont chers. Et c'est pour ça qu'il écrit à Timothée pour que celui-ci vienne. Mais il ne peut s'empêcher de dire à Timothée sa blessure. Des compagnons de route l'ont abandonné. Et c'est ce qu'il écrit à Timothée. Comme tu le sais. Est-ce qu'on me suit à la slide suivante? Tous ceux de la province d'Asie m'ont abandonné. Tous. Quand on lit le livre des Actes des Apôtres et on sait combien Paul a donné dans cette région. Il a même passé 3 ans avec les responsables de l'église d'Éphèse. Ils ont vu ses combats. Ils ont recueilli ses larmes. Ils ont vu combien Paul s'était donné entier pour eux. Et peut-être qu'Hermogène et Figel étaient des collaborateurs appréciés de Paul. En fait, nous ne savons pas qui ils sont en réalité. On peut supposer que Timothée les connaissait puisque l'apôtre Paul ne prend pas la peine de lui dire qui sont ces personnages qu'il cite. Nous ne connaissons rien d'eux, si ce n'est qu'ils faisaient partie du cercle relationnel de Paul. Ce que nous savons en revanche par le témoignage de l'apôtre Paul, c'est qu'ils sont du nombre de ceux qui lui ont tourné le dos à un moment très difficile de sa vie, où lui, il voulait pouvoir compter sur eux. Abandonné de certains, le voici seul devant le prétoire lors de sa première comparution. Le voici seul dans son cachot. Ceux qui tournent le dos, deuxième point de ma prédication, ceux qui tournent le dos, nous allons voir les motifs sous-jacents, les motifs qui opèrent dans ce mécanisme de déloyauté. Ça peut peut-être éclairer nos propres vies, nos propres échecs, nos propres souffrances. Si Paul s'épanche de façon surprenante ici concernant ceux qui lui ont tourné le dos, ce n'est pas tant qu'il voudrait régler ses comptes, mais c'est qu'il affronte la réalité de l'ambivalence humaine telle qu'elle peut se manifester ici, décevante, inconfortable. Mais qu'est-ce qui a pu conduire des amis, des frères, des compagnons de route d'œuvre à tourner le dos à un de leurs. Concernant Figel et Hermogène, Paul ne commente pas leur abandon. Paul est pudique, il n'étale pas la situation, nous n'en savons rien. Nous ne pouvons que supposer et faire un contraste avec ce qu'il va dire quelques versets plus loin concernant l'attitude d'Onésiphore, qu'il a cherché, qui n'a pas eu honte de lui, j'y reviendrai. Mais j'ai également rappelé le contexte sous Néron et des menaces éventuelles. On peut supposer qu'Hermogène et Figel ont eu peur pour leur vie. On peut supposer qu'ils ont craint de reconnaître Paul comme un ami, alors même qu'il est dans le collimateur de Rome. Lequel d'entre nous voudrait leur jeter la première pierre ? L'épreuve qui touche nos proches peuvent parfois nous désarmer. Et on peut être désarmé. Parce que voyez-vous, que ce soit la peur, ou que ce soit la déloyauté, ou que ce soit la lâcheté, tout ceci dit quelque chose de nos limites à nous. Tout ceci dit davantage sur nous que sur Paul. Sur mes peurs profondes. Sur mon incapacité à être fidèle, soutenant comme je l'aurais peut-être voulu. Qui veut jeter la première pierre à Hermogène et à Phigèle ? Ne le faisons pas, l'apôtre Paul ne le fait pas. Ils ont touché peut-être leurs limites, mais on peut supposer qu'ils avaient les moyens de prendre position comme Onésiphore. Ils ne l'ont pas fait. Cela aussi fait partie de la triste réalité de la fraternité. Nous l'avons rappelé dimanche dernier, ayant craint pour leur vie, la plupart des disciples de Jésus, au moment le plus douloureux de sa vie humaine sur cette terre, lui ont tourné le dos. Nous nous sommes rappelés de Pierre qui lui avait tourné le dos. Mais l'Évangile nous parle aussi d'autres personnes. Si vous lisez l'Évangile de Jean, vous allez être frappé par un certain nombre de personnes qui étaient des hauts dignitaires et qui croyaient en Jésus. Et Jean dit, mais ils avaient peur des réactions du Sanhédrin, ils se sont tus. De leur nombre était Joseph d'Arimathée, qui ensuite était là quand Jésus est mort et qui est venu réclamer son corps avec d'autres. Oui, ce passage nous parle de notre ambivalence et de nos cœurs parfois qui manquent la fraternité. Voilà pourquoi nous devons aborder ici la situation de Phigèle et d'Hermogène avec humilité et dire « Seigneur, fais de moi un homme, une femme, fidèle en amitié. » Constant et loyal, reconnaissant pour ceux avec qui tu m'as mis sur un même chemin de vie. L'amitié, la fraternité peut supposer de payer le prix. Il est vrai que le prix n'est pas toujours le don de notre vie, mais Jésus est même allé jusqu'à envisager que cela pourrait être le cas. La loyauté d'Étienne lui a coûté la vie parce qu'il s'était attaché à son Seigneur. À un point tel qu'il a préféré la lapidation. Jésus nous dit dans Jean chapitre 15, verset 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Rien qu'en le disant, rien qu'en l'écoutant, nous mesurons le gap qu'il y a entre ce que nous vivons ou nous voulons vivre et cette parole de Jésus. Heureusement, le Christ, lui, il a réalisé pour nous. Et seulement sa mort sacrificielle est rédemptrice. Quelle que soit ma loyauté, je ne peux pas substituer ma vie à celle du Christ. Lui, il nous a révélé ce que signifie être un frère dans l'adversité. Il s'est donné. Et Paul le savait. Et Paul l'a appris. La peur peut faire de nous des personnes qui choisissent la lâcheté, la trahison. Soyons-en conscients tout simplement. Et ne prétendons pas le contraire, comme Pierre. Parce que nous aurons à apprendre parfois, avec cris et larmes, nos propres limites. Et si vous avez été abandonné et lâché par des personnes sur qui vous pouvez compter, eh bien, l'apôtre Paul dit, voyez, ça arrive. Je l'ai aussi vécu. On peut se détourner de ceux avec qui on a marché parce qu'on se détourne aussi de la vérité. L'apôtre Paul n'a pas simplement connu ceux qui ont eu peur pour leur vie, mais il a également été confronté, en 2 Timothée chapitre 2, verset 18, à des personnes qui se sont détournées de la vérité, donc, leur abandon était symptomatique d'une problématique plus profonde. Ils ont tourné le dos à celui qui est la vérité. Hermogène et Phigèle, il ne nous est pas dit. Ce n'est pas parce que quelqu'un rompt les relations avec nous qu'il a quitté le Seigneur. Paul ne dit pas ça, ça c'est un raccourci qu'il ne faut pas faire. C'est parce que quelqu'un quitte l'Église, même avec perte et fracas, qu'il a quitté la foi. Non, Paul n'est pas en train de dire ça, attention. Mais certains quittent les frères et sœurs parce qu'ils ont déjà commencé à quitter la vérité. Et Paul nous donne encore deux noms de personnes qu'on ne connaît pas. Il mentionne Hyménée et Philète en disant qu'ils se sont détournés de la vérité. Et il dit précisément en quoi ? En affirmant que la résurrection est déjà arrivée, ça y est. Il n'y a plus d'espérance finale, n'attendez plus rien. La résurrection finale a déjà eu lieu. Et Paul dit, ça c'est le mensonge, c'est un autre évangile. Il ne supportait pas l'attente, il ne supportait pas la tension entre le déjà et le pas encore. Déjà, nous savons que le Christ a triomphé de la mort. Déjà, nous savons qu'il nous consolera un jour, il essuiera toutes larmes de nos yeux. Mais ce n'est pas encore la totale réalité que nous expérimentons. Et nous souffrons et nous gémissons, tendus entre le déjà, maintenant, ce que nous pouvons avoir, et le pas encore de cette réalisation complète. Et nous devons tenir bon, plutôt que de dériver vers une pseudo-théologie en disant « Non, ça y est, il règne déjà totalement. Et si tu ne l'expérimentes pas, c'est que tu as un problème avec ta foi. Christ est déjà venu. » L'apôtre Paul dit non. Et il utilise une image. Ils ont fait naufrage. Ils ont fait naufrage quant à la foi. L'embarcation d'un riche Britannique vient de faire naufrage en Italie. De nombreux morts. Ce n'est pas rien de faire naufrage. L'apôtre Paul dit pour eux, ils ont fait naufrage quant à la foi. Et ils ébranlent la foi de certains. Oui, un naufrage spirituel peut impacter une communauté relationnelle. Un naufrage spirituel peut entraîner un frère, une sœur loin de nous. Mais l'Écriture, là aussi, nous enseigne que l'amour couvre une multitude de fautes, que l'amour cherche l'autre, que l'amour ramène. La pseudo-foi de Hyménée et Philète, on peut se demander jusqu'où ils ont expérimenté une conversion authentique, mais il me semble qu'on peut dire, comme les apôtres l'ont dit d'ailleurs, ils étaient au milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. C'est toujours dans 2 Timothée que l'apôtre Paul met en garde l'Église et les chrétiens contre un mal qu'on appelle la religion et la religiosité. Ils avaient l'apparence de la piété. L'apparence de la piété. Mais ils avaient renoncé à ce qui en fait la force. Au chapitre 2, l'apôtre Paul révèle à Timothée ce qui fait la force d'une piété saine. Efforce-toi de te présenter devant le Christ. Ce que tu as reçu de moi, le bon dépôt de la parole, persévère, garde-le, transmets-le à d'autres personnes. Mais dans notre société de la superficialité et du divertissement, gardons-nous de ne pas rester sur l'apparence de la piété. Recherchons vraiment, frères et sœurs, ce qui en fait la force pour pouvoir demeurer dans la vérité qui est le Christ et pour pouvoir demeurer dans la communion fraternelle. Il y a un autre piège, bien que Paul n'essaye pas de faire un catalogue exhaustif, c'est au chapitre 4 qu'on le trouve, au verset 9. L'apôtre Paul parle encore de son abandon et il cite un proche collaborateur. Parce que l'amour du siècle présent a gagné son cœur. L'apôtre Paul parle de Démas. Car Démas m'a abandonné par amour pour le monde présent. Et il est parti pour Thessalonique. Démas, Démas, toi aussi. Toi aussi, Démas. Démas, tu étais un collaborateur, un frère. Tu es allé en mission avec nous, Démas. Il est mentionné plusieurs fois dans l'Écriture, ce Démas. Il est mentionné aux côtés de Luc, le médecin, aux côtés d'autres bien-aimés, Colossiens chapitre 4, verset 14, Philémon, verset 24, puisqu'il n'y a qu'un chapitre. Rien ne permet de nous enorgueillir que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Mais là aussi, soyons prudents. rien ne nous dit que la défection de Démas ait été totale et définitive. Paul dit seulement que l'amour du siècle présent a gagné son cœur. Voilà pourquoi la Bible nous dit que nous devons veiller sur notre cœur, plus que tout, car de là viennent les sources de la vie. L'amour du siècle présent, l'amour du monde narcissique, l'amour qui met chacun de nous au centre de sa vie, l'amour qui nous passe la pommade, l'amour du monde qui nous dit « non, non, tout aime, toute la vie est rose, la vie est belle », l'amour du monde qui dit « non, tu es la propre solution à tes problèmes ». J'ai même entendu une phrase qui m'a fait rire, c'est Tony Estanguet, le président des JO, du comité d'organisation des JO. Il a une phrase que je trouve à mon sens très naïve, mais qui était belle en apparence. Il a dit « ici, à Paris, est réunie la meilleure version de l'humanité ». Vous pouvez réécouter le discours inaugural. Et je me suis dit, mon ami, mon frère, en humanité, comme tu te trompes. Et alors, vous allez à la FNAC ou je ne sais pas dans quel autre magasin, vous voyez des rayons entiers de développement personnel où on vous vend les livres pour devenir la meilleure version de vous-même. Sans dépenser un moindre sou, il suffit de venir au Christ. Et vous verrez une reconfiguration qui va être initiée. Et vous verrez que devenir la meilleure version de nous-mêmes ne passe pas par ces livres-là. Et que là, à Paris, ce n'était pas la meilleure version de l'humanité. C'est une part de l'humanité avec son ambivalence. Et que dans l'Église, ce n'est pas toute la meilleure version de l'humanité non plus. L'apôtre Paul le dit avec beaucoup de lucidité. Soyons lucides sur notre condition et laissons-nous transformer par la présence du Christ, sans laquelle on ne peut pas être la meilleure version de nous-mêmes. C'est Christ qui nous configure, non pas pour que nous soyons la meilleure version de l'image que nous nous faisons de nous-mêmes, mais vous tous qui contemplez sa gloire comme dans un miroir, sa lumière vous serez transformée de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. Pour être à la statue parfaite, non pas de vous-même, mais de qui ? Du Christ. Arrête de vouloir être la meilleure version de toi-même. Dieu a mieux. Il veut faire de toi la meilleure version, non pas de toi-même, mais d'être taillé à la stature parfaite du Christ. Voilà ce qu'il veut faire de nous, quand nous voyons qu'on voit quelque chose du Christ. La fraternité nous est donnée comme une grâce pour concrétiser le lien de solidarité qui nous unit. Ce lien qui nous dit que nous appartenons à un corps, nous appartenons à une famille. Ce lien qui nous dit que nous avons une valeur. Ce lien fort, puissant, que Dieu ne veut que rien n'altère. Ce lien, c'est possible de le vivre encore aujourd'hui. C'est possible de le vivre malgré notre ambivalence. Regardez quelques exemples de ceux qui réconfortent. Si le lien d'amitié et de fraternité éprouvé peut se révéler quelquefois inconsistant et décevant, heureusement, voici le témoignage de l'apôtre Paul qui met aussi en exergue un modèle qui supplante la déception et nous donne joie et espérance dans la fraternité. Un passage de la Bible, Proverbe chapitre 17, verset 17, nous dit ceci. Un ami, aime en tout temps. Et dans le malheur ou dans l'adversité, il se montre un frère. Ce passage souligne l'importance de l'amitié, mais d'une amitié qui devient même fraternité. De manière particulière, souligne l'importance de nos liens d'amitié et de fraternité. Est-ce que nous cultivons des relations d'amitié en Église ? Sommes-nous seulement des frères en Christ ? Où pouvons-nous vivre en tant que frères en Christ une sincère et chaleureuse amitié, je l'espère. En tout cas, Onésiphore, son nom signifie celui qui porte à profit, celui qui porte profit, Onésiphore. Onésiphore, n'en a pas douté, avait une amitié et une loyauté qui ont été profitables à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul souligne quatre choses qui ont caractérisé l'amitié d'Onésiphore à son égard. Premièrement, Il dit, il m'a cherché. Onésiphore vivait dans la région d'Asie mineure, près d'Éphèse ou à Éphèse même. C'est là qu'il a rencontré Paul et c'est là qu'ils sont devenus amis. Et c'est là sans doute qu'il vit avec sa famille, puisque Paul parle d'Onésiphore et de ceux de sa maison. Et pourtant, Onésiphore, apprenant la situation de Paul, l'a cherché. Ça veut dire qu'il a, il a fait un projet. Je vais voir Paul. Je vais aller à sa rencontre. Coûte que coûte, vaille que vaille, je vais aller à Rome. Chercher. Il s'est renseigné. Il a certainement étudié le trajet qu'il allait faire. Ça lui a coûté certainement en frais de transport, en temps, en risque. Et l'apôtre Paul dit, il m'a cherché avec un zèle, avec ardeur, ce n'était pas facile. Chercher un frère, chercher une sœur, ça coûte un prix. Ça coûte. Ça te coûtera en temps. Ça te coûtera en larmes peut-être. Ça te coûtera en argent peut-être. Oh, souviens-toi à ce moment-là et souvenons-nous à ce moment-là d'Onésiphore. Il a cherché avec un zèle jusqu'à ce qu'il m'ait trouvé. Cherchez, dit Jésus, et vous trouverez. Car à celui qui cherche, il est donné de trouver. Cherche un frère. Cherche un frère aujourd'hui. Cherche une sœur. Cherche un ami. Ne te donne pas de repos. Cherche-le. Cherche-le jusqu'à ce que tu l'aies trouvé. Jusqu'à ce que tu aies trouvé le chemin de son cœur. Cherche-le. Cherche-le comme Onésiphore a cherché Paul. La deuxième chose, il dit, il n'a pas eu honte de moi. Vous savez que dans cette épître, Paul dit à Timothée, n'aie pas honte de moi parce que je suis prisonnier. Il ne s'est pas laissé arrêter par la condition de Paul. Paul ne pouvait plus peut-être rien lui apporter en étant en prison. Paul était condamné, mal vu. Et ça n'a pas arrêté Onésiphore. Ne laisse pas la réputation de quelqu'un t'arrêter. Ne laisse pas comment on regarde quelqu'un t'arrêter. Les autres le voient comme ça. Peut-être même à l'église, on le voit comme si. Mais toi, cherche-le. Cherche encore. Autant que cela dépend de toi. Parce que Onésiphore avait compris que Paul n'était pas prisonnier de Rome, mais prisonnier de Jésus. C'est parce qu'il a été loyal à l'évangile du Christ qu'il souffrait et qu'il était dans les chaînes. Mais l'évangile n'était pas enchaîné. Et Onésiphore savait ça. Ne te laisse pas arrêter par l'apparence, par la condition de l'autre. Par ce qu'on te dit ou ne te dit pas. Quand Dieu te met sur le cœur de chercher l'autre, cherche-le encore et encore. Jusqu'à ce que tu l'aies trouvé. Y compris dans ton couple, cherche le chemin de son cœur. Cherche-le, ne te lasse pas. Quand c'est encore possible, jusqu'à ce que tu l'aies trouvé. Et pourquoi? Et quelle était la finalité de cette quête coûteuse? En temps, en argent, en risque. Il m'a réconforté. Alléluia. Réconforté. Redonner le cœur, de la force à l'âme. Redonner de la force au cœur. Voilà le ministère aussi de l'évangile. Nous sommes porteurs, comme des ambassadeurs, d'une parole qui peut donner force au cœur découragé. Onésiphore était de ceux-là qui se laissaient utiliser par Dieu et par l'Esprit Saint pour redonner la force à celui qui était découragé. Et il a obéi ici à une parole que Jésus donne dans Matthieu 25. J'étais en prison et vous êtes venu me voir. Quelqu'un attend dans sa prison que tu viennes le voir et le réconforter. Réconforter quelqu'un, c'est lui dire, je me sens concerné par ta vie. Réconforter quelqu'un, c'est lui dire, je ne sais pas être à ta place, je ne sais pas tout ce que ça implique, ce que tu as vécu ou ce que tu vis, mais je sais que je t'aime. Et tu comptes pour moi. Et je fais tout ce que je peux pour venir te voir. Réconforter quelqu'un, ce n'est pas être dans la pitié, mais c'est, sentir nos entrailles remplies de compassion comme celle du Christ l'était, ému de compassion face aux foules. Il les cherchait et il les trouvait. Je me soucie de toi parce que l'amour du Christ me presse. Et nous avons nous aussi été réconfortés, dit l'apôtre Paul aux Corinthiens, pour vous réconforter. Malgré sa souffrance, Paul écrit pour réconforter Timothée. Aujourd'hui, nous avons tellement de possibilités. Un coup de fil, un SMS, un mail, se déplacer plus rapidement, partager un café et une tisane, simplement aller proposer une marche, une balade. Oh, Église du Christ, entre dans ce ministère du réconfort et de la consolation. Entre dans ce ministère de la visite fraternelle qui réconforte. Entre dans ce ministère de la restauration des relations brisées. Il m'a rendu service, dit Paul, quatrième fois. Ce n'est pas seulement un langage d'amour, ce n'est pas simplement des principes qu'on dit derrière la chair. Je me sens aussi interpellé. Apôtre Paul dit, il m'a aimé, pas seulement en parole, mais il m'a aimé aussi en acte. Et l'apôtre Jean nous dit, petits enfants, n'aimez point en parole seulement, mais en action aussi. Et il dit à Timothée, tu vois, il m'a rendu des services tant de fois, bien de fois. Gary Chapman, dans les langages de l'amour que les fiancés, les couples apprécient de lire, nous rend attentifs à ce langage de l'amour qui est les services rendus. Comment nous rendons-nous service les uns les autres? Comment je peux te rendre service? Quand je te rends service, c'est ma manière à moi de te dire aussi, tu vois, tu comptes pour moi, tu vois, je t'aime. Enfin, il y a d'autres exemples, mais le temps nous passe. Je cite simplement Marc. Pourquoi c'est intéressant de citer Marc? Au chapitre 4, Paul dit, tous m'ont abandonné, Luc seul est avec moi. Viens avec moi et prends Marc. Quand vous savez que Marc, le cousin de Barnabas, qui avait encouragé l'apôtre Paul, les avait lâchés, leur avait tourné le dos lors du premier voyage missionnaire, pour des raisons qu'on ne sait pas. Marc a dit, ah non, 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 les gars, moi je rentre. Paul a plié un doigt, comme on dit chez nous, chez moi, d'où je viens loin là, du Cameroun, il a plié un doigt, je retiens. Au deuxième voyage missionnaire, Barnabas, qui est connu pour être le frère qui encourage toujours, qui voit toujours le verre à moitié plein, il dit, Paul, retournons voir les frères. Retournons visiter ceux qu'on a vus lors du premier voyage pour se rendre compte comment ils vont. Et Marc, tu viens avec nous? Paul dit, n'y pense même pas. Marc, non, il n'a pas été loyal au premier voyage. Il a vu le verre à moitié vide. Il nous a lâchés au premier voyage. Il n'est pas question qu'il vienne avec nous. C'est un boulet. Ouh! Il y a des églises comme ça, hein. Si vous faites un faux pas, vous êtes grillé pour toujours. On dit, ah, celui-là, pasteur, tu ne peux pas lui confier ce ministère, c'est un boulet. Ah, celui-là, il fuit toujours, il dit oui, mais après, il ne fait pas. Et c'est pour ça que dans les églises, il faut des Barnabas qui ne voient pas que ça. Certes, il peut être boulet, mais il est en train d'apprendre, il est en formation. Et Barnabas a eu une vive explication avec Paul. En gros, ils se sont engueulés, mais comme la Bible est pudique, elle ne nous dit pas les mots d'oiseaux qu'ils se sont lancés à la figure. Et dit seulement, il y a eu une vive explication entre eux. Vous voyez, ça peut arriver, hein, qu'il y ait une vive explication entre des frères en église. Mais Paul et Barnabas se sont séparés et Dieu a continué de les bénir séparément. Or, Marc a grandi en maturité, en loyauté. Et ce Marc a été, avec l'apôtre Pierre, celui qui a été comme le secrétaire de l'apôtre Pierre et qui a écrit l'évangile du même nom. Et regardez, Paul, peut-être 20 ans après, écrit aux églises de Colosse de bien accueillir Marc comme un homme digne de confiance. Oui, Dieu restaure les liens. Amen. C'est ce que cette histoire nous dit. Oui, Dieu restaure les liens. Dieu restaure la loyauté. Dieu est capable de réparer le lien que nous avons cassé pour X, Y, Z de raison. Et il dit, amène avec toi Marc, car il m'est utile pour le ministère. Oh Paul, tu es un peu utilitariste, non? Non, il est réaliste, il est pragmatique. Si Paul est capable d'avoir fait ça, c'est parce qu'il a fait un chemin, c'est le quatrième point. Il a dû dépasser sa blessure. Ne croyez pas que Paul était un roc insensible, inerte. Il avait en lui un cœur comme toi, comme moi. La déception nous blesse. La trahison nous rend furieux. La lâcheté nous renverse. L'injustice, tout ceci a blessé Paul et a blessé son cœur. Mais il a choisi de dépasser sa blessure. Je ne sais pas combien de temps ça lui a pris, mais il est parvenu à dire ça dans sa lettre. Que Dieu ne leur en tienne pas compte. En langage clair, que Dieu leur pardonne leur lâcheté. Et je me suis dit que Paul lui-même a été pardonné quand il a été lâche et violent. Vous savez, quand Étienne mourait, Paul était là, il avait donné sa voix pour qu'on condamne Étienne. Et c'est les paroles que Étienne a eues en regardant le ciel. Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font en lapidant Étienne. Et c'est les mêmes paroles que Jésus aura à la croix. C'est des paroles difficiles à dire. C'est des paroles qui nous coûtent des larmes. Mais tant que nos blessures ne sont pas guéries, nous blessons les autres souvent. Ceux qui blessent ont souvent été blessés. Et Paul nous montre un chemin de guérison ici. Je n'ai plus le temps de développer. Pour dépasser notre blessure. Il nous dit deux choses. La lâcheté, ça fait mal. Quand on nous tourne le dos, ça blesse. Il nous dit aussi, il y a un chemin. Un chemin de pardon. N'attendez pas l'autre. Faites ce chemin pour vous-même. Allez-y, dépassez la blessure. L'Église t'a blessé. Ça peut arriver. Ça pourra encore arriver. Ça fait mal. Mais tu peux dépasser ta blessure. Comment? En se tournant, cinquième point, vers le Seigneur, c'est ce qu'il fait. En disant, non, je ne suis jamais tout seul, on va afficher les deux slides, je conclurai rapidement. Le Seigneur m'a secouru et il m'a fortifié. Il est le réconfort du faible. Pour dépasser sa blessure, on ne peut pas le faire tout seul comme ça. On a besoin du secours de Dieu. C'est un combat spirituel. Ce n'est ni par ta force, ni par ton sang, ni par ta puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Il dit ici des paroles qu'on trouve aussi dans le psaume 34. « J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. » Quand un malheureux crie, le Seigneur entend et il le délivre de ses frayeurs. « Il m'a délivré de la gueule du lion. » On peut penser à Daniel, aux compagnons de Daniel, etc. Le Seigneur l'a fait et c'est ça son espérance. Slide suivant. « Le Seigneur le fera encore. » Il me délivrera encore de tout mal et il me fera entrer sain et sauf dans son règne céleste. À lui soit la gloire pour toujours. Amen. C'est comme si à la fin de sa vie, il a chanté ce cantique. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Voyez, non, jamais tout seul. Et en repartant ce matin, dites-vous, je ne suis jamais seul. C'est vrai, le Seigneur est avec moi, mais c'est vrai, il m'a donné des frères et sœurs. Je vais chercher un frère, je vais chercher une sœur. Amen. Et pour lier tout ça, nous allons partager le pain et le vin de la Sainte-Seine avant de nous séparer. Et nous allons redire que ce pain, ce vin, qui nous renvoie à la mort du Christ et à sa victoire, eh bien nous unit. Nous sommes vraiment unis au Christ et nous sommes frères et sœurs et nous ne sommes pas seuls. J'invite les personnes qui ont été appelées à servir ce matin à s'avancer. J'invite aussi Olivier pour peut-être nous introduire, nous accompagner dans le partage du pain et du vin. Bien-aimés, nous le savons, le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, a désiré partager encore ce pain avec ses amis. Il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » Et de même, après avoir soupé, il prit la coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant « Prenez et buvez-en tous cette coupe. » Et le sang qui scelle une alliance nouvelle pour la rémission des péchés d'une multitude. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Alors nous voulons faire mémoire de notre Seigneur qui a fait de nous des frères et sœurs en Christ. Nous voulons partager ce pain et ce vin et nous laisser renouveler dans notre amour les uns pour les autres, dans notre amour de fraternité, avec le désir qu'il nous trouve et qu'il fasse de nous des hommes, des femmes qui cherchent les autres jusqu'à ce qu'on les ait trouvés en Jésus-Christ. Amen. J'invite celles et ceux qui souhaitent prendre part à cette table de la communion à se manifester au passage du pain et du vin. Si tu reconnais le Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, uni à lui par la foi, alors je t'invite à partager cette table que le Seigneur a préparée. C'est la table du Seigneur. Même si le pain reste le pain et ce jus de raisin reste du jus de raisin, ils sont porteurs d'un signe. La mort et la résurrection de notre Seigneur pour te libérer, pour consoler les cœurs brisés. Amen.